Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 28 janvier 2022 et c'est la matinale info RCJ. De nombreuses cérémonies se sont déroulées hier à l'occasion de la journée mondiale du souvenir de la Shoah. Parmi elles, la remise du prix Corin qui récompense les initiatives pédagogiques sur le génocide juif. Vous entendrez le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, au micro de RCJ. Il a remis ses prix. Commémoration en Israël et en Europe. On reviendra avec Emmanuel Ada sur ce moment fort. Le président de la Knesset, Miki Levy, qui fond en larmes en lisant le Kaddish, la prière aux morts, devant le Parlement allemand. Et puis le vendredi, c'est le conseil série de Lise Barenboim, direction l'Angleterre et l'humour noir du Britannique Ricky Gervais pour Afterlife. Bonjour Margot Siffer.
Bonjour Eddy, bonjour à tous.
Il est 8h passé de 45 secondes et on débute cette matinale par le journal.
La matinale info, Rudy Saad.
Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'entretiennent aujourd'hui par téléphone au sujet de l'Ukraine.
Il s'agira de faire le point sur la situation. Les États-Unis ont également demandé une réunion publique du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont assuré qu'ils utiliseront l'arme gazière en cas d'invasion de la Russie par l'Ukraine.
Moderna a commencé des essais sur les humains d'un vaccin contre le sida utilisant la technologie de l'ARN messager.
Cet essai se déroule aux États-Unis. Il porte sur 56 adultes en bonne santé et séronégatifs. Le but du vaccin est de stimuler la production d'un certain type d'anticorps. Il serait capable d'agir contre les très nombreux variants en circulation du VIH.
Et puis il devient le premier médicament pris par voie orale autorisé au sein de l'Union Européenne. Et bien le régulateur européen a approuvé la pilule anti-Covid de Pfizer, le fameux Paxlovid.
L'instance recommande de l'utiliser chez les adultes qui n'ont pas besoin d'oxygène supplémentaire et qui présentent un risque que la maladie devienne grave. La France a commandé 500 000 doses de ce traitement pour 2022. Quelques milliers d'entre elles doivent être livrées dans les prochains jours.
Et dans le même temps, la France a franchi la barre des 130 000 morts depuis le début de l'épidémie de Covid.
Plus de 392 000 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. 34,7 millions de personnes ont reçu à ce jour une dose de rappel. 52,6 millions présentent un schéma vaccinal complet.
Hier avait donc lieu la journée de souvenir des victimes de la Shoah. Églantine Delalleux a suivi la candidate Valérie Pécresse au mémorial.
Vous avez ici le fichier de Pithiviers-Descamps, Pithiviers-Bonnard-Hollande, et vous avez ici le cahier de mutation des enfants, puisque malheureusement, sur les 76 000 juifs de France, 11 400 enfants ont été déportés et assassinés en priorité à Auschwitz.
L'antisémitisme a de multiples visages et nous devons être implacables face à lui. Tels sont les mots de Valérie Pécresse. Lors de la journée internationale en mémoire de la Shoah, la candidate à la présidentielle s'est rendue au mémorial de la Shoah, situé dans le 4e arrondissement de Paris. Si elle s'est d'abord recueillie devant le mur des noms, sur lequel est gravée les identités des 76 000 juifs déportés, puis dans la crypte pour y déposer une bougie, Valérie Pécresse s'est ensuite dirigée vers la salle des fichiers juifs, recensant entre 1940 et 1944 les fichiers des juifs arrêtés.
C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y avait pas de... Sur les grandes lois, il n'y avait pas de distinguo. Elles touchaient tous les juifs, qu'ils soient français ou étrangers.
Contrairement à ce qu'on entendait.
Une visite avec Antoine de Fond, les propos d'Éric Zemmour réhabilitant le maréchal Pétain, sans jamais nommer le polémiste Valérie Pécresse, a fustigé ceux qui falsifient l'histoire.
Ici, à la fondation du mémorial de la Shoah, j'ai tenu dans mes mains le statut des juifs, annoté, aggravé par le maréchal Pétain de sa propre main, le statut des juifs en France qui ordonnait les juifs français ne puissent plus exercer aucune fonction publique.
Avec une hausse du nombre d'actes antisémites depuis un an, la candidate à la présidentielle mise sur la tolérance zéro et le respect de la loi sans cependant mettre en place de nouvelles mesures dans son programme présidentiel pour lutter contre l'antisémitisme.
Alors avec moi, ce sera tolérance zéro contre tous les antisémites, contre l'islamisme, contre tous les fanatismes. C'est ma conception de la République française.
Avant de quitter les lieux, Valérie Pécresse a signé dans le livre d'or du mémorial « Ceux qui oublient le passé marchent vers les ténèbres. N'oubliez jamais pour ne jamais reculer. » Églantine Delalleux au mémorial de la Shoah pour RCJ.
Inaugure aujourd'hui à Strasbourg l'Institut National du Service Public qui remplace l'ENA depuis le 1er janvier.
Le Premier ministre échangera notamment avec des élèves en cours de formation. Il se rendra également à Truchtersheim pour visiter une structure France Service. Il s'agit d'un guichet unique censé accompagner les habitants dans leurs démarches administratives au quotidien.
La mobilisation pour réclamer des hausses de salaire a été plutôt importante hier dans les rues de France, partout en France.
Plus de 150 000 employés du privé, fonctionnaires, retraités ou encore lycéens ont, d'après la CGT, manifesté. Ils étaient 89 000 d'après le ministère de l'Intérieur, dont 8 800 à Paris, 2 500 à Marseille et 1 500 à Lyon et à Rennes. Dans l'éducation nationale, le mouvement a été suivi par 8,52% des enseignants.
Puis un mot de la présidentielle, Emmanuel Macron ne s'est pas encore déclaré candidat à sa réélection, mais il y a déjà un site internet qui organise sa campagne.
Avec vous, 2022.fr a été lancé par l'équipe de la majorité présidentielle. Elle y dénonce les candidats déjà déclarés. Les destinataires du mail annonçant sa création sont appelés à inviter leurs proches à rejoindre la campagne. Une campagne avec, je cite, « tous les Français qui souhaitent faire avancer la France ».
Et puis c'est la Fashion Week, le monde de la mode rend hommage aujourd'hui à Pierre Cardin.
Le rendez-vous est donné au musée de l'air et de l'espace du Bourget pour la fin de la semaine parisienne de la haute couture, édition printemps-été 2022. Pierre Cardin est décédé en décembre 2020 à l'âge de 98 ans.
Merci Margot Siffer. Vous écoutez RCJ, il est 8h06 et c'est à cette heure précise, dès lundi, que vous allez découvrir une nouveauté dans la matinale info. Et c'est notre directrice d'antenne, Sandrine Seban, qui nous en dit plus. Bonjour Sandrine.
Bonjour Rudy, bonjour Margot.
Alors, à quoi s'attend lundi? On vient de parler de présidentielle avec Margot.
Exactement. Et nous serons à 70 jours de la présidentielle, effectivement, lundi. RCJ va mettre en place tout un dispositif pour vous informer, mais également, évidemment, pour faire ce que nous faisons au quotidien sur RCJ. Donner du sens à l'info, donner de la hauteur. Et nous allons le faire tous les matins dans votre journal, Rudy, à 8h05, 8h06 précisément, avec 5 personnalités exceptionnelles. Certaines sont déjà parties de la team RCJ, d'autres nous rejoignent. Alors, on ne va pas laisser le suspense plus longtemps. Je vais donc vous annoncer que le lundi, vous aurez le plaisir de retrouver pour cette chronique qui s'intitule « À l'heure présidentielle », le lundi, ce décryptage d'un des thème de la présidentielle et un thème vraiment expliqué, non pas dans les petites phrases et le buzz, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le lundi, ce sera Robert Namias, qu'on ne présente plus, ancien directeur de l'information de TF1. Le mardi, ce sera Paul Amar, ancien présentateur du 20h de France 2 et qui anime tous les vendredis sur RCJ un magazine à 12h. Le mercredi, ce sera notre chroniqueuse, elle aussi que vous connaissez bien, Rachel Kahn. Le vendredi, ce sera Elisabeth Femla qui fait son grand retour et je sais à quel point vous êtes nombreux à l'apprécier. Et puis, j'ai pas été dans l'ordre, mais parce que le jeudi, là, c'est un vrai événement et c'est une vraie surprise, j'imagine, pour nos auditeurs. C'est Jean-Louis Debré, l'ancien ministre de l'Intérieur, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil constitutionnel, qui se prêtera pour RCJ et pour vous, chers auditeurs, à une analyse d'un des thèmes de la présidentielle. Inutile de vous dire que quand une personnalité pareille, lui qui a été un des plus grands hommes d'État de notre pays, eh bien, va décortiquer la présidentielle, il y aura du sens, il y aura de la hauteur. Et il y aura de quoi vous aider à voter correctement et à faire avancer le débat en France.
Merci Sandrine. Et donc on vous donne effectivement rendez-vous à l'heure présidentielle aux alentours de 8h06 tous les jours jusqu'à évidemment l'élection du prochain président. C'est notre manière, entre autres, de vous faire vivre cette présidentielle sur RCJ. Merci Sandrine. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h08. Dans un instant, nous irons en Israël où une étude montre que la corruption gangrène une partie du pays.
Le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
Faites votre don sur kkl.fr.
Bonjour, c'est Sandrine Seban. Heureuse de vous retrouver les lundis et mercredis de 11h à midi pour le magazine culturel Essentiel sur RCJ, bien sûr.
Je m'appelle Valérie Suskind, responsable du recrutement pour l'université Reichmann, anciennement IDC. Les plus de 200 étudiants français et toute l'équipe vous attendons sur notre campus à Herzliya. Je vous invite à nous rejoindre sur un Zoom d'information le dimanche 6 février à 18h de France, 19h israélienne pour vous parler de nos programmes licence et master. Veuillez nous contacter au WhatsApp 972 54 562 81 21. L'université Reichmann, vivre en Israël, étudier en anglais.
Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36.
C'était un moment très fort hier au Bundestag. Le président de la Knesset, Miki Levy, qui fond en larmes en lisant le Kaddish, la prière aux morts, devant le Parlement allemand. Bonjour Emmanuel Ada.
Bonjour Rudy, bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, c'est devant les députés allemands du Bundestag que le président de la Knesset, Miki Levy, s'est adressé en hébreu à l'occasion de la 77e journée internationale du souvenir de la Shoah, avant de réciter à la fin de son discours la prière du Kaddish à la mémoire des victimes. Kaddish qu'il a fini en larmes, la tête entre les mains. C'est l'image qui a fait la une des journaux israéliens. Il faut savoir qu'il a lu le Kaddish à partir d'un livre emprunté à Yad Vashem, qui avait appartenu à un petit garçon juif allemand qu'il avait utilisé pour sa bar mitzvah juste avant la nuit de cristal en 1938. Beaucoup portent encore des cicatrices qui ne sont pas fermées et qui pour certains ne guériront jamais, a déclaré Miki Levy. L'Allemagne a fait de la sécurité d'Israël l'un des piliers de sa politique étrangère. Elle s'oppose aux manifestations d'antisémitisme, même lorsqu'elles prennent une forme antisioniste, a-t-il rappelé. Et c'est Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères, qui lui était en visite spéciale pour cette journée au camp de concentration de Mauthausen, où a été assassiné son grand-père. Il était accompagné notamment par le chancelier autrichien Karl Nehammer. Le camp de Mauthausen est aujourd'hui un musée, dit-il, et l'État juif est l'avenir. Monsieur Nehammer a de son côté présenté des excuses au nom de l'Autriche pour les crimes commis à Mauthausen, perpétrés par le régime nazi du Troisième Reich lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, des visites officielles, des cours, des journées spéciales dans les écoles, des rencontres avec des derniers témoins et aussi des programmes à la télévision. Israël commémore à sa manière et intensément cette journée du souvenir. Pourtant, il reste une chose qu'Israël n'a pas encore fait, protéger et soutenir ses derniers survivants, ceux qui sont sans famille et qui sont dans le besoin. Il y en a, puisque le dernier rapport de l'organisation La Tête en 2021 annonçait que 25% de nos derniers survivants de la Shoah vivaient sous le seuil de pauvreté en Israël. Pour preuve, une pétition pour que la Société Générale d'Électricité distribue gratuitement de l'électricité aux derniers rescapés de la Shoah et aux personnes âgées qui souffrent pendant cet hiver si rude.
Rapidement Emmanuel, un nouvel incident revient en Israël entre gardes frontières et soldats de Tsahal avec deux blessés hier.
Oui, deux soldats de la police des frontières ont été légèrement blessés par des soldats de l'unité Caracal de Tsahal à la suite d'une erreur dans une opération de lutte contre le trafic de drogue à la frontière égyptienne. Tsahal a ouvert une enquête sur cet incident dû au manque de coordination. Un incident grave qui aurait pu se terminer en catastrophe.
Et puis Israël, pour conclure, de plus en plus corrompu, c'est le nouveau classement 2021.
Oui, absolument. C'est le nouveau classement de l'ICP, un groupe de veille anticorruption qui a attribué à Israël la pire note de toute l'histoire du pays. Israël s'est classé 59e sur 100 en 2021. L'IPC teste et contrôle 180 nations dans le monde. Et depuis 2016, les niveaux de corruption en Israël ont augmenté selon l'enquête. L'ancien Premier ministre Netanyahou est le premier à être inculpé pour corruption dans plusieurs affaires, mais il n'est pas le seul. Le chef du parti Chasse et l'ancien ministre Aryeh Deri appelé des coupables cette semaine dans une affaire de délits fiscaux. Et puis les députés de l'opposition Yaakov Litzman, David Bitan, Chaim Katz pourraient de leur côté être inculpés pour des délits de corruption variés qu'ils auraient commis alors qu'ils suivaient une carrière au service public.
Merci Emmanuel Ada et à la semaine prochaine. Vous écoutez la matinale Info RCJ, il est tout juste 8h15. Dans un instant, reportage sur la remise hier soir du 30e prix Corin sous le haut patronage de Jean-Michel Blanquer qui nous a accordé un entretien sur le thème de l'enseignement de la Shoah en France.
Vous faites votre alia?
Depuis 30 ans, Sonigo Déménagement Groupe Fidi s'occupe de tout.
Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque. Véhicules. Solutions de stockage pour courte et longue durée en nos dépôts ultra sécurisés.
Sonigo Déménagement, agent en douane certifié Fidi et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe Fidi
au 01 76 54 92 92.
01 76 54 92 92. Ou sur le www.sonigo.eu.
RCJ. Salle presque comble dans l'auditorium du lycée Louis le Grand hier soir pour la 30e cérémonie de la remise du prix Corin, un prix tourné vers l'enseignement de la Shoah. Reportage. Chaque année, depuis 1989, le prix Annie et Charles Corin récompense les initiatives pédagogiques autour de l'enseignement de la Shoah. Pour cette 30e édition, une vingtaine de projets mis en place par des professeurs et leurs élèves ont été soumis au vote du jury, composé d'historiens et présidé par le psychanalyste Boris Cyrulnik.
Se taire, c'est se faire complice des criminels, donc il n'est pas question de se taire. Et l'enseignement, ça n'est pas la répétition, c'est pas la rumination de ce qui nous est arrivé, c'est l'élaboration de ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire qu'il faut chercher à comprendre. C'est-à-dire chercher à comprendre les réactions, comment un tel phénomène incroyable a pu se produire, et ça s'est produit. Donc c'est le contraire de la rumination.
Créé par Charles et Annie Corin, tous deux rescapés des camps de la mort, ce prix est organisé par le département jeunesse du Fonds social juif unifié. Et cette année, le jury a récompensé deux projets. Il s'appelait Akar par des élèves de terminal commerce du lycée Émile Zola de Bar-le-Duc, un livre graphique qui retrace l'histoire d'une famille lorraine décimée par la Shoah.
Ce qui est très difficile parce que c'est une histoire extrêmement touchante, mais on a réussi quand même malgré tout à faire un très beau projet et je suis très fière de ce qu'on a pu faire. Et voilà.
Autre lauréat ex aequo, deux classes de première générale du lycée Jean-Puy de Roanne. Les élèves sont allés à la rencontre d'enfants cachés pour des interviews. Des QR codes disposés dans la ville permettront bientôt aux passants d'écouter ces témoignages. Avec également un prix spécial remis aux élèves de 3e du collège Charpégui autour du destin de deux habitants de Palaiseau. Ils ont mêlé danse, théâtre, film en stop motion et musique pour retracer leur vie. Pour la proviseure de ce collège, ce prix est aussi un hommage au corps enseignant.
Un projet comme ça, ça ne peut se faire que quand il y a un établissement qui est solidaire derrière. Ça, c'est la première chose. Et après ça, oui, c'est un bel hommage à la passion des enseignants. Mais je dirais que c'est un bel hommage à l'aller-retour. C'est-à-dire que les enseignants envoient leur passion, mais les jeunes nourrissent la passion et la renvoient à leurs enseignants. Et je trouve que c'est ce va-et-vient qui est magnifique et qui est riche.
Fierté également pour les élèves, Aude était sur scène et cette aventure du prix Corin aura soudé sa classe et lui aura donné une vision plus précise de la Shoah.
Ça a beaucoup changé la classe parce qu'au début, on était en groupe et du coup, on a commencé à travailler avec un peu tout le monde et ça nous a beaucoup rapprochés. Je ne m'attendais pas à ce que l'histoire de la Shoah soit aussi terrible et triste. Et du coup, ça a changé tout mon regard sur la Deuxième Guerre.
Auprès du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et du président du Fonds social, Ariel Goldman, les trois filles du couple Corin étaient aux premières loges pour la 30e année consécutive et l'émotion était intacte.
Simone Veil, quand elle a été présidente une dizaine d'années. Et on était toujours assis ensemble au moment de la remise des prix. Quand les élèves s'exprimaient, à chaque fois, elle avait une larme. Et je crois que nous aussi, quand on entend les élèves, c'est complètement bouleversant parce qu'ils nous disent des vérités. Ils ont une spontanéité à prendre ce flambeau qui est toujours surprenante et merveilleuse.
C'est sur la musique composée par Léopold Zimmermann, au cœur de l'un des projets, que s'est conclue cette soirée, placée plus que jamais sous le signe de la transmission. Et suite à cette remise de prix, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous a accordé un entretien. On l'écoute. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir.
Merci de répondre aux questions de RCJ. Tout d'abord, quelle est votre réaction quand vous voyez la qualité des projets qui ont été menés par les élèves et par leurs professeurs ?
Ma réaction, c'est celle d'être à la fois réconforté et optimiste. Vous savez, il y a souvent des doutes qui sont exprimés sur la transmission de l'histoire de la Shoah, des inquiétudes, et on peut les comprendre. Mais en même temps, on voit que beaucoup est fait par nos professeurs, par l'institution et par nous tous, et puis les institutions aussi ici représentées, pour que justement cette transmission se fasse. Et elle se fait. Et chaque fois qu'elle se fait, les élèves comprennent les enjeux, s'investissent, s'engagent. Et c'est ce qu'on voit ce soir avec le prix Corin. Et c'est très beau à voir, parce qu'il y a beaucoup d'authenticité, beaucoup d'approfondissement, beaucoup de travail, beaucoup d'humanité dans ce que l'on voit.
Alors, le Premier ministre était à Auschwitz aujourd'hui. Le président a rallumé la flamme. Le gouvernement est extrêmement mobilisé en cette journée du souvenir. Est-ce que c'est plus important cette année que d'autres années ?
Non, nous sommes mobilisés chaque année. Vous savez bien que sur l'enjeu de l'enseignement de l'histoire de la Shoah en particulier, du côté de l'éducation nationale, nous sommes pleinement mobilisés. D'abord, dans notre travail de tous les jours, hein, puisque cet enseignement se fait à l'école primaire, en CM2, au collège, en troisième, et puis en terminale, dans les programmes du lycée, et que nous sommes partenaires de toute une série d'institutions, je pense à la Fondation pour la mémoire de la Shoah en particulier. Et nous sommes donc mobilisés, je dirais, toute l'année sur cette question, et chaque année. Il y a cette année le 77e anniversaire. J'ai tenu à ce que ça se passe au Conseil de l'Europe avec d'autres ministres de l'Éducation et des parlementaires. Mais c'est évidemment chaque année, en cette date particulière, que l'on doit faire mémoire et tous les jours de l'année que l'on doit faire ce travail.
Alors vous l'avez mentionné, il y a énormément de questions autour de l'enseignement de la Shoah. Ces professeurs dans certains quartiers qui ne peuvent pas enseigner la Shoah. Vous qui avez une ligne directe avec les professeurs qui maintenant peuvent remonter tous les incidents, toutes les incivilités, les problèmes de laïcité qu'ils rencontrent, est-ce que vous avez une remontée du terrain par rapport au fait de pouvoir plus ou moins enseigner la Shoah en 2022?
Alors, vous avez raison de souligner d'abord, un, le fait que ce problème a pu exister ou peut encore résiduellement exister. Deuxièmement, de souligner que j'ai dit dès le début de mon arrivée en 2017 à mes responsabilités que rien ne devait rester sous le tapis en la matière et que donc aucun professeur ne devait se sentir seul chaque fois qu'il estimait ne pas être en situation de pouvoir faire son enseignement, sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs. Et donc nous avons installé, c'est vrai, des équipes valeurs de la République qui interviennent chaque fois qu'un professeur signale le problème. De sorte que les signalements ont baissé sur cette question. Ils ont d'abord augmenté, puis ils ont baissé, puisque nous avons apporté des solutions. Je suis souvent allé dans des quartiers où ce problème pourrait se poser et j'ai souvent vu des élèves extrêmement engagés dans l'histoire de la Shoah. Et je veux quand même souligner d'abord que la plupart du temps, les choses se passent bien. Alors je ne dis pas qu'il ne reste pas résiduellement des problèmes de ce type. Mais ce que j'affirme, c'est que la République est la plus forte et que finalement, ce phénomène est plutôt en diminution. Maintenant, je reste toujours ouvert à tous les signalements. S'il y a une exception à ce que je dis, elle est faite pour être signalée de façon à y porter remède. Mais chacun doit bien comprendre qu'il n'y a pas de recul de la République sur l'ensemble des enjeux des valeurs de la République. Et parmi ces enjeux, évidemment, pas de recul sur la question de la transmission de l'histoire de la Shoah.
Alors ça sera ma dernière question. Dans votre discours, vous avez souligné ces chiffres inquiétants, ces études inquiétantes qui ont marqué l'actualité cette semaine à propos de l'antisémitisme. Est-ce que cela est le symptôme d'une société malade qui se cherche ?
L'antisémitisme est toujours le symptôme de quelque chose qui ne va pas, au-delà de l'antisémitisme lui-même. L'antisémitisme, c'est un anti-humanisme. Et c'est un peu la pointe avancée des effets de fragmentation qu'il peut y avoir dans les sociétés modernes. On le sait par l'histoire, justement. Et on doit évidemment voir cela comme un thermomètre de problème. Alors l'antisémitisme doit être combattu en tant que tel, c'est-à-dire en tant que théorie, en tant qu'approche déshumanisante. Mais il doit être vu aussi en tant que thermomètre de nos problèmes de société, de parfois nos visions de société erronées, celles qui, par exemple, consistent à fragmenter, à opposer les groupes en fonction des origines, en fonction de quoi que ce soit, au détriment de la vision républicaine, humaniste, universaliste, qui fait que de chaque être humain, un être humain d'égale dignité. Et donc, combattre l'antisémitisme, c'est tout simplement combattre pour nos valeurs, pour l'humanisme en particulier.
Est-ce que vous avez vu aujourd'hui vous rassure ?
Oui, parce que c'est vrai qu'on signale tout ce qui ne va pas, c'est le propre de l'actualité, mais il faut aussi savoir signaler ce qui va. Et l'immense majorité de nos élèves sont évidemment à la fois en connaissance et en conscience des enjeux qu'il y a derrière l'histoire de la Shoah. Et c'est eux qui construiront l'avenir. Et je pense qu'on doit avoir confiance en cela. Et un prix comme celui-là montre qu'il y a des avant-gardes de professeurs, des avant-gardes d'élèves. Mais c'est pas seulement des avant-gardes. Ils sont aussi, je crois, significatifs du fait qu'en réalité, ce qui ne se perd pas, c'est le sens de la dignité humaine. Et nos élèves ont le sens de cela. Ils ont aussi le sens de l'engagement.
RCJ, il est 8h25, place à la chronique série de Lise Barenboim. Direction ce matin l'Angleterre et l'humour grinçant du Britannique Ricky Gervais pour Afterlife sur Netflix.
Si tu visionnes ça, c'est évident que je suis plus là.
Et ça doit pas durer ni devenir une obsession. Tu dois réagir.
Une série sur un homme qui a envie de se suicider car sa femme vient de mourir des suites d'un cancer.
Pas très réjouissant, me direz-vous. Et pourtant, quand c'est le génialissime Ricky Gervais qui est aux commandes, on saute dedans à pieds joints. La série Afterlife, qui se conclut ce mois-ci sur Netflix après 3 saisons, est un bijou. Écrite et jouée par le Britannique Ricky Gervais, elle donne du grain à moudre intellectuellement, autant qu'elle fait rire à gorge déployée.
Comment allez-vous ? Une bonne journée, c'est quand j'ai pas envie de flinguer des innocents au hasard dans la rue et de retourner l'arme contre moi. Mal alors.
Prenez la petite ville anglaise de Tambury. C'est là que vit Tony, un quinca acariâtre en pleine dépression. Car Tony vient de perdre sa femme Lisa, le grand amour de sa vie. Il passe son temps à regarder des vidéos d'elle avec son chien. Et loin de vivre son deuil dans son coin, Tony a décidé de déverser sa souffrance sur son entourage.
Reste actif. C'est une catastrophe de picoler quand on est un glandeur qui s'apitoie sur son sort.
Pédophile !
Quoi ?
Pédophile !
Je suis pas un pédophile. Et si j'en étais un, tu risquerais rien, espèce.
Il est journaliste au sein de la Gazette de la Ville, un minuscule canard où bosse une belle brochette de personnages secondaires totalement bonsariens et hilarants. Car Ricky Gervais, ne l'oublions pas, est le créateur initial de la série The Office. Si vous ne l'avez pas encore visionné, voici un chef-d'œuvre à ne pas rater dans sa version adaptée américaine sur Amazon Prime. Dans The Office, Ricky Gervais laissait déjà libre cours à son cynisme à travers ses personnages, tous plus déprimants et plus fous les uns que les autres. Mais ici, dans Afterlife, le propos est moins grinçant. La gravité du sujet, le deuil, fait de la série une comédie acerbe, mais aussi une fable philosophique sur le sens de la vie. Car comme l'a dit Ricky Gervais lors de son discours au Golden Globe en 2020, de toute façon, nous allons tous mourir, alors quelques blagues de plus ou de moins ne vont pas changer les choses.
Comment va Lisa ?
Seigneur Dieu, elle est morte, tu le sais.
Amène Lisa à la prochaine fois.
Seigneur Dieu.
Je refuse que tu continues à faire vivre un enfer à tout le monde.
Toi, tu devrais.
Dans Afterlife, le personnage principal de Tony passe son temps à dire, avec une franchise déconcertante, leurs 4 vérités à tout le monde. Il faut dire que son job le conduit à rencontrer des parasites narcissiques, comme il les appelle. En couvrant les nouvelles locales, il rencontre aussi bien de jeunes parents, fiers de leur bébé qu'ils disent ressembler à Hitler, qu'un ado obèse et désœuvré qui joue de la flûte avec ses narines. Mais si Tony vanne en permanence son entourage, c'est aussi ces gens-là qui lui permettent de rester debout. Son je m'en foutisme de compétition se heurte à la bienveillance de son beau-frère, de ses collègues de travail et de cette jolie infirmière qui s'occupe de son père atteint d'Alzheimer et qui pourrait peut-être lui redonner un peu de bonheur. Une série à voir pour des scènes comiques d'anthologie où la misanthropie de Tony mène à une gêne aussi intenable que jouissive. On rit et on réfléchit en bonne compagnie.
La chronique série de Lise Barembo, merci. J'ai 28, c'est la météo de Sylvie.
Bonjour à tous, à Paris même temps qu'hier, ciel couvert et brouillard matinaux et 7 degrés au meilleur de la journée. À Nice, le ciel sera très nuageux et deviendra variable, il fera 12 degrés. Et à Tel Aviv, l'atmosphère perturbée deviendra plus instable en cours de journée avec un ciel bien couvert et quelques averses, 11 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs.
Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info. À ne pas manquer aujourd'hui à midi, Paul Amar en toute liberté consacré à la crise ukrainienne. Très belle journée à toutes et à tous sur RCJ.